BFM Bourse, on refait la séance.
Et on compte les points sur les marchés. Ce soir, on en perd quelques-uns. Sur le CAC 40, 7662 en clôture, il perd 0,6% notre CAC. Pour en parler, Arnaud Giraud, Kepler Chevreux nous accompagne. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Guillaume.
C'est Airbus, la faute à Airbus tout ça. Moins 9,5% Airbus qui explique en partie cette baisse du CAC 40. Moins 9,5% parce qu'Airbus donc a abaissé ses objectifs de livraison. Également ses perspectives de résultats opérationnels et en matière de cash. Ça déçoit le marché. Des mauvaises nouvelles aussi dans la partie spatiale. Bon, est-ce qu'à moins 9,5% on se dit néanmoins, le titre est au plus bas depuis le mois de novembre, on se dit néanmoins que c'est un point d'entrée qui s'ouvre pour les investisseurs? Ah, je sens que vous n'êtes pas convaincu.
On se rapproche du point d'entrée, je dirais. On se rapproche. Hein. Nous, on est un des rares brokers qui est négatif depuis un petit moment. Alors, on se moquait un peu de nous parce que le titre montait un peu dans le vide. Parce que quand vous regardez les estimations de résultats depuis maintenant 18 mois, ils font que baisser sur Airbus. Donc, en fait, ces problèmes de supply chain, ils sont pas nouveaux. Ce qui est étonnant, c'est la complaisance du marché sur les problèmes de Boeing et penser que Airbus peut complètement être immunisé à ces mêmes soucis. Voilà, s'il faut financer ses fournisseurs, si ces fournisseurs n'arrivent pas à suivre les cadences de production, est-ce que Airbus, à un moment où Boeing est autant en crise, est-ce qu'Airbus seul va prendre le coup du financement de cette croissance? Voilà un peu la question qui est posée et on a la réponse un peu aujourd'hui. La réponse, c'est non. Donc effectivement, les attentes de croissance trop élevées dans un contexte où les supply chains ont du mal, toujours dans l'aéronautique, à suivre la croissance.
Gilles, d'un point de vue technique, néanmoins, moins 9,5, bon, est-ce qu'on se dit qu'on arrive sur des seuils techniques intéressants pour un rebond à venir, ou au contraire, cette baisse ce soir dégrade le potentiel d'Airbus?
Alors, si on fait de l'analyse technique et si on fait du chartisme, on a une configuration assez intéressante aujourd'hui. C'est-à-dire que on a une bougie très hésitante, à savoir que les niveaux d'ouverture et de clôture sont quasiment les mêmes. On a beaucoup d'ombres, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un point haut et un point bas qui se sont fortement éloignés de ces niveaux d'ouverture et de clôture. Et avec ça, on a des volumes très importants, nettement supérieurs à la moyenne. Donc, bougie d'hésitation avec forte augmentation de volume sur un mouvement directionnel fort, ça peut nous donner un retournement et donc ça peut nous donner une impulsion pour au moins un rebond technique. Donc il va falloir voir, on a ouvert aussi un gap, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Donc de deux choses l'une, soit on n'a pas ce rebond et on confirme la rupture des 134,60 et là clairement on aura un signal fortement baissier avec comme objectif un retour possible sur une zone de support identifiée à 118,40, soit on rebondit un petit peu, mais tant que l'on reste sous 150, globalement ça reste baissier sur le titre Airbus.
Autre valeur qui se distingue aujourd'hui, alors à l'inverse, Eurofins Scientifique qui perdait hier 16%, bien aujourd'hui le titre récupère 4%, c'est pas beaucoup, hein, 4% comparé à la baisse d'hier. Mais enfin, en tout cas, Eurofins Scientifique dément les accusations de malversation financière portées par Moody Waters. Eurofins Scientifique qualifie ces allégations, ces accusations de Moody Waters de sans fondement. Bon, le marché a pas vraiment acheté la défense d'Eurofins, plus 4 ce soir, c'est pas énorme. Comment est-ce que vous regardez l'avenir d'Eurofins Scientifique en bourse, Arnaud?
C'est toujours un peu le même problème avec ces attaques qui ont un track record, je dirais, souvent assez pertinent, assez bon. Elles mettent le doute dans le marché et c'est très difficile pour les entreprises de se défendre. C'est quasi impossible parce que leur parole, quelque part, est discréditée. Dans le cas de
Solution 30, ils étaient bien parvenus hein, quand même. Ils avaient été attaqués, puis ils avaient réussi à très très vite remonter la pente. Ils avaient eu une communication de crise là-dessus qui était plutôt performante. Mais voilà, c'était Solution 30 qui a changé de nom d'ailleurs. J'ai oublié comment il s'appelle.
Ouais, mais si vous voulez, même Solution 30, in fine, ça a duré très longtemps et ça a fini par flancher. Et je pense que les investisseurs sont prudents parce qu'ils savent que ces attaques sont souvent, il y a toujours un peu de vrai derrière. Donc, si vous voulez, je pense que la prudence et s'impose sur ce dossier. Et en plus de ça,
non, j'ai dit Solution 30, mais je pensais à Vusion Group. Je pensais à Vusion Group. Non, pardon, excusez-moi.
D'accord.
Okay. Pour les investisseurs qui seraient peut-être troublés.
Parce que l'histoire Solution 30 s'est étendue sur plusieurs mois. Et effectivement, il y a eu des moments où le marché ne croyait pas vraiment aux attaques. Mmh. Et puis, il a fini par capituler.
C'est ça.
Mais ce que je voulais dire, c'est que...
On est sur Eurofins Scientifique. Là.
Sur Eurofins, ouais. Ce que je voulais quand même, pour rassurer les éventuels actionnaires de l'entreprise, je pense qu'il y a beaucoup de points qui sont mis en avant par Muddy Waters qui étaient connus avant. On n'a rien appris. La gouvernance faiblarde de l'entreprise, celle-ci, elle est connue. Et d'ailleurs, c'est un point qui, potentiellement, là où l'entreprise peut vraiment retourner les choses. Il y a du boulot qu'ils peuvent faire pour améliorer la gouvernance de l'entreprise et la visibilité aussi sur tout un tas de transactions qu'on leur reproche. Vous savez, la location de l'immobilier qui est détenu par leur actionnaire majoritaire. Donc, il y a des choses qu'ils peuvent faire pour je dirais, adresser les inquiétudes de la bourse. Après, pour ce qui est des malversations, les attaques comme quoi les chiffres sont surévalués et qu'ils ne publient pas les comptes justes, ben là, malheureusement, j'ai envie de vous dire, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose, si ce n'est un audit éventuellement plus approfondi. Le problème de cette entreprise, c'est qu'elle a grossi énormément via acquisition. Donc il y a beaucoup d'entreprises derrière cette entité, et par définition c'est toujours difficile pour les auditeurs d'avoir une vue à 360 de ce type d'entreprise.
Donc trop tôt pour revenir ?
Un peu tôt, la valorisation commence à être très attractive, il faut le souligner, on a plus de 50% d'upside sur notre fair value aujourd'hui qui elle est très fondamentale. Et l'endettement n'est plus ce qu'il était. L'endettement est bien maîtrisé. La dette est bien refinancée. Donc, je dirais, de ce point de vue-là, assez rassurant. Mais voilà, prudence. On sait qu'ils vont revenir à la charge, ces short-sellers. C'est toujours le même procédé. Un premier rapport, un deuxième rapport. Donc, faut être un peu patient.
Le CAC ce soir, on vous le rappelle, on l'a vécu en direct avec Étienne Braque pour la clôture, moins 0,6%, donc à 7662 points. Puis un petit mot aussi de l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. On suit ça très près à 5 jours des législatives. Bon, à peu près stable. Oui, on a un léger écartement entre le 10 ans français et le 10 ans allemand aujourd'hui à 71 points de base. C'est pas terrible, enfin, c'est pas non plus l'incendie, loin de là. 71 points de base, donc en ce moment, entre les 10 ans français et allemand. Justement, à 5 jours de ces législatives, est-ce que, avec vos équipes chez Kepler-Chevreux, vous arrivez à identifier des valeurs ou une valeur dont vous vous dites celle-là, elle devrait résister aux résultats législatifs, quels qu'ils soient?
Oui.
Arnaud.
Déjà juste un mot pour vous dire que j'ai l'impression que les investisseurs internationaux sont assez détendus sur ce problème des législatives. Ils regardent ça avec intérêt et je les appelle d'investisseurs américains qui comprennent rien au système politique français.
Ils regardent ça avec du pop-corn, j'imagine aussi. Ouais.
Ils essaient de comprendre ce qui se passe, mais ils sont quand même relativement détendus. Donc, je dirais, sauf incident, il y a un potentiel de rebond. En l'occurrence, Euronext nous semble être une valeur qui est une société de croissance un peu structurelle, bien gérée, avec un bon bilan, mais qui surtout aime cette volatilité, bénéficie de cette volatilité, un peu comme d'ailleurs les entreprises dont je fais partie, donc les brokers. Plus les marchés sont volatiles, évidemment, plus il y a de volume ça achète et ça vend dans tous les sens. Et ça, évidemment, Euronext en bénéficie directement.
Oui, parce qu'on a le législatif français dans la présidentielle américaine aussi qui pourrait créer de la volatilité. Donc pour un groupe comme Euronext, c'est plutôt pas mal.
Exactement.
Mais en même temps, il y a peu d'introductions en bourse à Paris. Étienne, depuis la tour Euronext, en témoigne jour après jour. Il n'y a pas d'introduction en bourse à Paris, ou très très peu. Voilà. Est-ce que, voilà, peut-être des volumes à venir et de la volatilité importante, mais en même temps, à l'inverse, c'est dans la case, dans l'étagère des choses négatives, de moins en moins d'IPO à Paris, surtout avec le contexte politique et l'instabilité qui peut-être pourrait durer. Est-ce que ça, pour le coup, c'est pas un coup pour Euronext? Un coup dans tous les sens du terme.
Alors, ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est si l'Europe, dans son ensemble, Euronext est une plateforme boursière européenne, si l'Europe, dans son ensemble, n'arrive pas, je dirais, à retrouver un chemin de la croissance et à attirer du capital, effectivement, on pourrait se poser la question de façon plus structurelle, à la fois des introductions en bourse, à la fois des volumes de transactions, l'intérêt de la bourse européenne en général. Mais sur ce point, moi, je suis relativement optimiste. Je trouve que on voit bien que beaucoup d'hommes politiques ont compris que le grand sujet, c'est justement comment est-ce qu'on va déplacer aujourd'hui. Il y a énormément d'épargne en Europe qui dort sur des comptes d'épargne peu rémunérée et sans risque, et comment on va déplacer cette épargne vers, au contraire, l'innovation, les entreprises et les investissements du futur. Donc de ce point de vue-là, je suis pas très inquiet, je dois dire.
Euronext, donc pourquoi pas parmi les valeurs qui pourraient traverser positivement la période à venir, les mois à venir, une période, une année électorale très riche. On aura aussi le 4 juillet, faut pas l'oublier, donc la semaine prochaine, les législatives au Royaume-Uni, en l'occurrence, qu'il faudra pas rater. Puis le 4 juillet aussi, l'émission obligataire de la France qui va passer un test sur le marché pile entre les deux tours. On verra comment ça se passe. Merci beaucoup Arnaud de nous avoir accompagnés. Arnaud Giraud et ses équipes de Kepler Chevreux régulièrement à nos côtés.